verts, ça fait partie du kit. Donc, quand on parle de réduire l'empreinte du gazon, moi, je pense qu'on est moins dans l'environnement que dans l'imaginaire et la culture collective. On va parler de tout ça avec Karel Méran, écologiste, qui signe un texte vraiment intéressant dans l'actualité sur la démesure des produits de consommation. Donc, on va parler avec lui de gazon et de la grosseur de nos chars, de nos maisons, de nos téléviseurs, de nos frigos. Ce qu'on nous vend de nos jours, là, puis c'est l'avantage de vieillir, on peut constater à quel point tout a grossi. Les divans sont plus gros, les téléviseurs sont plus gros, nos maisons sont plus grosses. Et ce qui est absurde à propos des maisons, c'est que nos maisons sont construites plus grosses, mais les familles sont moins nombreuses qu'il y a 30 ans, qu'il y a 40 ans. Évidemment, tout ça coûte plus cher à chauffer, tout ça coûte plus cher à meubler, etc., etc. Donc, Karel Méran va être avec nous dans une heure. Les écrivains québécois, tantôt, je le disais, c'est très beau à voir, sont célébrés à Paris. On vit une sorte d'âge d'or, présentement, de littérature au Québec. Donc, au Festival du livre de Paris, on fête des auteurs, des autrices québécois. Il y a des gens comme Dany Laferrière, évidemment, qui passe une partie de sa vie à Paris. Hélène Dorion, Alain Farah, Dominique Fortier, Michel Jean aussi, qui est aussi un animateur à TVA, Marie-Hélène Poitras, Éric Chacot. Ils sont des dizaines de talents québécois qui s'illustrent à Paris ces jours-ci. Claudia La Rochelle va être avec nous. On va lui parler de Paris. Merci d'être là. Vous pouvez m'écrire 98-985. Salut Jérémy.
Salut.
Le Canadien a rendez-vous avec Patrick Roy ce soir.
Oui, pour ceux qui n'ont pas trop suivi là, ce qui s'est passé avec les Islanders depuis que Patrick Roy est là, eh bien, ils ont subi une mauvaise séquence au mois de mars, alors qu'ils ont perdu 6 matchs consécutivement, et ils étaient même sortis du portrait des séries éliminatoires à ce moment-là. Mais là, ça va beaucoup mieux. Ils viennent de gagner leurs 5 dernières rencontres, et les Islanders sont au plus fort de cette course aux séries éliminatoires. Ils ont 87 points, ils occupent le 3e rang de leur division, la division métropolitaine, avec 4 matchs à faire, donc ça regarde quand même assez bien. Il y a 4 équipes qui les pourchassent à 4 points ou moins. Leur chance mathématique de faire les séries au moment où on se parle, c'est 86%. Donc, ça regarde quand même bien. Chez le Canadien, ben, on se concentre plutôt sur des accomplissements individuels. Mike Matheson, ce soir, pourrait atteindre le plateau des 60 points. Il est à 59. Il serait le premier défenseur du Canadien depuis Piquet Subban il y a 9 ans à atteindre ce plateau-là. Alors, c'est Samuel Montembeault devant le filet pour cette rencontre. Émission d'avant-match à 18h30 sur nos ondes.
Et le Rocket, le club école, est en action, lui.
Oui, exactement. Le Rocket joue ce soir du côté de Cleveland. Un match très important puisque Laval est toujours dans la course aux séries éliminatoires à 2 points des Sénateurs de Belleville. Mais il ne reste que quelques matchs à jouer. Le nouveau venu, Florian Jacky, ne sera pas de l'alignement pour le match de ce soir. Là, après cette rencontre, il va leur rester seulement 3 matchs. Hockey féminin, ben, c'est les quarts de finale de championnat du monde de hockey ce soir du côté de UTK. Le Canada qui affronte la Suède. Les Canadiennes qui ont jusqu'à maintenant ont une fiche de 3 victoires, une défaite dans ce tournoi-là. Et finalement, le jeune prospect des Canadiens, Lane Hudson, et son équipe de Boston University jouent en demi-finale du Frozen Four. Là, c'est les grandes finales du hockey universitaire. Si jamais son équipe devait s'incliner ce soir, eh bien, ça ouvrirait la porte à possiblement une arrivée de Lane Hudson avec le Canadien dès ce week-end.
Un mot sur O.J. Simpson.
Ouais, écoute, O.J. Simpson, là, je suis en train de vérifier certaines choses parce que pas mal tout a été dit aujourd'hui. Mais il y a une chose importante. Lorsqu'il a été reconnu coupable au civil, il devait à ce moment-là 58 millions de dollars à la famille de M. Ronald Goldman. Et jusqu'à maintenant, là, il y a une petite fraction de ce montant-là qui a été payé seulement. Et la famille de M. Goldman aujourd'hui qui a indiqué qu'ils allaient continuer de tenter de mettre la main sur l'argent qui leur est dû. Mais bon, vous comprendrez que la fortune de O.J. Simpson là ne totalise pas 58 millions de dollars. Donc, ça va continuer de faire couler beaucoup d'encre. Écoute, c'est incroyable de voir qu'un gars qui a gagné le Heisman, qui a récolté 5 saisons de plus de 1000 verges dans la NFL et qui est rentré au temple de la renommée du football et reconnu pour d'autres choses que ça. C'est assez spectaculaire.
Ben, faut dire que ce dont on l'a accusé, Jérémy, c'était aussi spectaculaire.
Là. Ah ouais, c'était vraiment incroyable. Puis à ce moment-là, tu sais, ce qui est drôle aujourd'hui, c'est que je pense que si tu parles de O.J. Simpson à monsieur, madame, tout le monde dans la rue, ils savent tous qu'il a été accusé, bien sûr, du meurtre de sa conjointe, mais je te dirais que la grande majorité ont oublié qu'il a été un des plus grands joueurs de football de l'histoire de la NFL. C'est à ce point-là là, que ça a eu de l'ombrage sur sa carrière de joueur.
OK, parle-nous de golf. C'est le tournoi des Masters là, qui commence.
Exactement. Donc, ce matin, il y avait de la pluie. Donc, les départs ont été retardés. Au moment où on se parle, Ryan Fox mène avec moins 5. Le Canadien Corey Connors est à moins 2. Tiger Woods, à cause de tout ça, va seulement commencer sa ronde à 15h54, donc dans une demi-heure approximativement. Bien sûr, il n'aura pas le temps de jouer les 18 trous aujourd'hui. Ça va être un problème, Pat, parce que on l'a vu, là, Tiger, depuis le début de l'année, quand il arrive plus loin dans sa ronde, 14e, 15e, 16e trou, il y a beaucoup plus de difficultés physiquement. Donc, demain, probablement, qu'il va devoir jouer 20 trous et plus. Ça risque d'être compliqué. Et comme je le mentionnais dans le tour de table tout à l'heure, là, si vous l'avez manqué, le traducteur du grand joueur de baseball, Shohei Ohtani, Ippei Mitsuhara, est officiellement accusé d'avoir volé 16 millions de dollars de son compte de banque pour rembourser des dettes de jeu. Et il aurait l'intention de plaider coupable à ces accusations-là. Il n'y aurait aucun pari sur le baseball dans tous ces paris-là.
En terminant, on va parler de basket québécois. Parle-nous de l'Alliance.
Ouais, ben l'Alliance qui joue ce soir là, en fait ils ont effectué une signature de contrat, je crois. Ça vient de rentrer dans mes courriels. Là. Je t'en reparlerai lors du prochain tour de table.
Parfait, merci beaucoup.
À tout à l'heure. Bye bye.
Ok, je regarde ma messagerie dans le 98985. Et écoutez, je dois dire qu'il y a un sujet polarisant qui se profile à l'horizon. Je parle du gazon. Vous êtes nombreux à m'écrire sur le gazon et je dirais que la teneur des messages, quand je dis que c'est polarisant, c'est soit c'est mauvais pour la planète ou alors touche pas à mon gazon. Continuez à m'écrire. On va en parler avec Karel Méran dans un peu moins d'une heure. Merci d'être là. Continuez à nous écouter. Vous pouvez me trouver au 98985.
Suivez Michel Turcotte à CFX-FM 93.
La ville est en train de développer des nouveaux quartiers éco-hivernaux. C'est des endroits en ville où on ne met pas de sel. On a commencé là dans certains secteurs, notamment dans Sainte-Odile, là, en haut, là, pas loin de la route 232, le quartier sans fil, qu'on appelait, là, qui avait été développé de par M. Savoie, qui était propriétaire de ces terrains-là et qui les avait vendus. Mais moi, là, je suis bien d'accord avec le fait qu'on utilise moins de sel au prix où ça coûte maintenant. Mais qu'on mette la sécurité des gens en péril pour le bien-être de l'environnement, ben là, j'embarque un peu moins dans l'affaire. Mais on est rendu qu'on est en train d'extensionner ces quartiers-là un peu partout en ville, même dans le centre-ville. Moi, là, je considère l'Est, là, le Julien Réel, à aller jusqu'à l'ancienne église Sainte-Agnès, là, comme un peu le centre-ville. Ça a été toute une surprise pour moi de voir dernièrement des pancartes, là, notamment que ce quartier-là serait dorénavant sans sel de déglaceur.
Chronique municipale, tous les lundis, 7h45. Une présentation de TMS Solutions.
Avril et le soleil sont déjà de retour et les portes de la résidence Seigneur Lepage sont grandes ouvertes pour accueillir de nouveaux résidents. Courez en plus la chance de gagner un mois de loyer gratuit. Prenez congé de la lessive, du ménage et des repas. Installez-vous confortablement dans une résidence pour aînés qui a du cœur. Une résidence où vous vous sentirez tantôt comme au resto, tantôt comme à l'hôtel, mais toujours comme chez vous, à la résidence Seigneur Lepage de Rimouski. Contactez Mélanie au 418-723-0243. Elle vous expliquera les règles de notre concours et l'ensemble des services offerts par notre résidence.
Pierre, tes prédictions pour les séries?
Cette année, sans hésiter, je dirais que Hyundai va être l'équipe à battre.
Bien d'accord avec toi, ils vont être à surveiller.
Ils présentent tout un alignement. De joueurs de concession comme le nouveau Santa Fe, des vétérans fiables comme l'Elantra et le Tucson, et de plus, c'est l'événement Hyundai en série avec du financement à partir de 3,99% sur version sélectionnée.
Un modèle à suivre en particulier?
Ah, Marc, je garderai un œil sur le Kona N-Line avec son rabais additionnel de $500. Profitez de l'événement Hyundai en série. Des conditions s'appliquent. Visitez votre concessionnaire pour les détails.
Bonjour, je peux prendre votre commande? Allô?
Oui. Ah ouais, OK. C'est quoi ta question?
Laisse-moi deviner. Un combo défoncé au volant, super joli.
Non, juste un hamburger avec des frites.
Tu penses que tu conduis mieux quand t'es défoncé? Pense-y deux fois. Fumer du pot affecte ton délai de réaction et ta concentration. Un message de Mad Canada.
Ne manquez pas la toute nouvelle chronique de Sébastien Desjardins de H. Grégoire Rimouski. Démystifions la vente de véhicules usagés et tout ce qui l'entoure. Il a de bons conseils pour vous. Soyez au rendez-vous tous les vendredis à 9h15. Une présentation de H. Grégoire Rimouski.
CFIX FM 93. Le sport, les nouvelles d'ici, les enjeux de l'heure, les sujets qui vous mettent et qui vous mettent. Vous allez en entendre parler à CFIX FM 93.
Le Québec maintenant.
Au réseau Cogeco, vous écoutez Le Québec maintenant.
Le Québec maintenant.
Avec Patrick Lagacé,
votre point de repère.
Le Québec maintenant.
15h25. Quand on marche dans les rues de Montréal et aussi ailleurs, là, hors de Montréal, on peut avoir l'impression que il y a beaucoup, beaucoup de monde qui fume du pot. Pourquoi? Ben parce que ça sent beaucoup, beaucoup le pot. Je parle d'expérience à toutes les heures du jour, de la nuit, du soir. On peut sentir du cannabis. Ça a été légalisé, on le sait. Et je suis vraiment pas contre ça. Je pense que c'était un petit peu absurde de faire la guerre à un produit qui était utilisé par tant de gens. Sauf que ce qu'on constate dans les plus récentes données de l'Institut de la statistique du Québec, c'est que la consommation de cannabis des Québécois est en baisse. C'est assez surprenant. J'en parle avec Jean-Sébastien Fallu, professeur agrégé à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal, fondateur du groupe de recherche et d'intervention sociale et directeur de la revue Drogue. Salut Jean-Sébastien.
Oui, salut.
Est-ce que ces résultats t'ont étonné?
Moyennement, pas tant que ça, parce que on a eu quand même la pandémie qui est venue augmenter la consommation de cannabis. Ça a été documenté dans des études. On était déjà haut avant la légalisation au Québec, là, à 14% pour la population de 15 ans et plus, au moins une fois dans la dernière année. C'est sûr qu'il faut apporter toutes sortes de nuances par rapport au profil de consommation, mais si on parle de ça, ça a augmenté, puis la pandémie est venue augmenter ça. Fait qu'on pouvait s'attendre à ce que ça rebaisse. C'est sûr qu'on sait jamais, la légalisation, il n'y a pas beaucoup d'expérience de ça, on sait pas, mais même si plusieurs personnes craignaient que ça explose, beaucoup, je faisais partie de ces personnes-là, disaient que ça devrait pas augmenter tant que ça, puis ça dépend aussi du modèle. Puis au Québec, on a un modèle très prudent qui c'est sur la santé publique, des fois même un peu trop prudent peut-être. Mais donc pour moi, c'est pas surprenant que ça rebaisse un peu, parce qu'à un moment donné, si c'était si haut, si ça a monté avec la pandémie, ben là, ça fait du sens que ça rebaisse un peu.
Bon, donc ça a suivi la même courbe que l'alcool, est-ce qu'on peut dire ça?
Ben c'est vrai que l'alcool, on voit que ça baisse dans les dernières années un peu. Il y a même des gens qui pensaient qu'il y avait des déplacements de l'alcool vers le cannabis. Là, il y a certaines hypothèses dans ce sens-là, ce qui serait quand même peut-être une bonne chose. Mais on voit effectivement une prise de conscience par rapport aux substances, puis en parler, puis ça montre qu'effectivement, des fois, changer les règlements puis les politiques, ça peut être une bonne chose si ça affecte pas trop la consommation. Puis on a aussi des discours, particulièrement chez les jeunes, puis c'est là qu'on voit aussi des baisses de stabilisation les plus marquées pour la sobriété, pour la santé, pour faire attention, puis d'être apte notamment à conduire, mais aussi à être en société. Puis ça peut contribuer à ça aussi.
Mais chez les jeunes, disons, là, chez les ados, si on se fie aux statistiques qui ont été révélées par l'ISQ, là, les 15 à 17 ans, c'est le seul groupe d'âge dans lequel la consommation a jamais augmenté depuis 2018. Je trouve que ça pulvérise un peu le mythe de l'ado qui est toujours un poteux.
Ben effectivement, c'est sûr que c'est surtout les jeunes adultes qui consomment. Là, on faut faire la différence entre combien de personnes consomment, puis est-ce qu'il y a une augmentation ou pas. Mais c'est vrai que chez les adolescents, on n'a pas vu d'augmentation, on a même vu une baisse. Puis c'est vrai que même pendant la pandémie, j'ai vu que ça a augmenté, mais quand on est ado, c'est souvent dans les contextes sociaux qu'on va consommer. Fait que ça explique peut-être aussi pourquoi ça n'a pas augmenté pour ce groupe d'âge-là.
Je parlais avec des parents, je parle avec des ados, Jean-Sébastien, si on est pour rester sur le thème des ados, ils s'éloignent de l'alcool. Tu sais, tout le monde a grandi, c'est pour ça que je te tutoie là d'ailleurs, on a grandi dans le même quartier. Là. écoute, les jeunes buvaient beaucoup, même mineurs, là, disons ça. Aujourd'hui, est-ce qu'on a des statistiques sur l'alcool, l'utilisation de l'alcool chez les ados?
Ben oui, on a des statistiques. C'est vrai que ça a baissé. J'ai pas les chiffres en tête, là, mais c'est sûr que si on prend les jeunes au secondaire, là, ça monte beaucoup. Là, du secondaire 1, on est plus dans les 15%, jusqu'au secondaire 5, où on va avoisiner les 80%. Mais dans les dernières années, effectivement, ça a baissé. Là, on voit quand même certains comportements à risque augmenter. Fait qu'il y a peut-être des sous-groupes plus à risque.